Bonjour à toutes, à tous. J'ai intitulé donc ce message « Être utile pour Dieu ». Et puis je me suis dit peut-être qu'il faudrait rajouter « Être utile pour Dieu et pour les autres ». Les autres, pour aujourd'hui, ce sera les autres membres de l'Église. Mais ça peut être bien sûr pour les autres au dehors aussi. On raconte que un grand évangéliste du 19e siècle, qui s'appelait Charles Finney, qui prêchait l'évangile dans de grandes campagnes d'évangélisation et qui amenait beaucoup de gens à la conversion par ce moyen. On raconte que Charles Finney aimait, quelque temps après, revenir dans les villes, dans les églises où il avait prêché l'évangile et où un certain nombre de gens s'étaient convertis. Et quand il venait, il posait toujours cette question au pasteur de l'église locale. Il disait, mais tous ces gens qui sont venus la dernière fois que je suis passé et qui se sont convertis au Seigneur, depuis leur conversion, sont-ils devenus utiles dans l'église? On dit aussi que, plus près de nous, il y a à peu près une soixantaine d'années, Winston Churchill, à l'époque Premier ministre de l'Angleterre, aurait déclaré ceci, et je vous rappelle qu'il parlait il y a à peu près 60 ans, « L'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants. » Les gens ne veulent pas être utiles, c'est pas leur premier souci, mais ils veulent être importants. Alors, évidemment, on pourrait dire tout de suite que pour être important, il faut être utile. Parce que les gens les plus utiles deviennent forcément les plus importants. Cela, Winston Churchill le disait il y a 60 ans. Alors, il serait bon, en première partie de ce message, de se poser la question, que signifie le fait d'être utile ? Nous avons lu deux versets, dans la première lettre aux Corinthiens. Le premier disant « Tout m'est permis ». Alors, on pense, les spécialistes du Nouveau Testament pensent que Paul reprend ici une phrase de certains Corinthiens. Vous savez qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'église de Corinthe et les Corinthiens, qui n'étaient pas donc d'origine juive, mais d'origine grecque, qui étaient des Grecs tout simplement, les Corinthiens avaient pris beaucoup de liberté avec la parole de Dieu après leur conversion, en tout cas certains d'entre eux. Alors, les spécialistes pensent que qu'en disant « tout m'est permis », l'apôtre Paul reprend une phrase qu'il entendait souvent dire à Corinthe par les nouveaux convertis, « maintenant, tout m'est permis, parce que j'ai découvert la grâce, j'ai découvert la liberté ». Alors, Paul reprend cette phrase « tout m'est permis » et il rajoute « mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Comme l'a dit une autre traduction, je ne me laisserai jamais dominer par un désir quelconque. Ce qui montre déjà que le fait d'être utile va nécessairement à l'encontre d'une certaine forme d'égoïsme ou d'égocentrisme. Nous avons tous des désirs, des ambitions, des rêves, mais sont-ils compatibles avec le bien de l'Église? Parce que Paul ici s'adresse aux membres de l'Église de Corinthe, il s'adresse aux chrétiens. Dans le deuxième texte, 1 Corinthiens 10, 23, Paul reprend la phrase, il ne met plus le petit M apostrophe devant le verbe être, et il dit « tout est permis ». Mais il ajoute, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La Bible du Semeur, la traduction de la Bible du Semeur dit quelque peu d'une autre manière cette phrase. Elle dit, oui, tout est permis, comme vous dites, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Et en traduisant ainsi, la Bible du semeur veut bien montrer que le fin mot de l'histoire, la signification profonde de ces deux textes, c'est que, oui, c'est vrai, après tout, le chrétien a le droit de faire tout ce qu'il veut. C'est saint Augustin qui disait « Aime Dieu et fais ce que tu veux ». C'est vrai que si on aime et qu'on aime vraiment Dieu depuis le départ, si notre vie est portée par cet amour de Dieu, alors amour de Dieu, c'est-à-dire amour pour Dieu, ou amour de Dieu en nous pour les autres, alors on peut faire ce qu'on veut parce qu'on sera animé par l'amour de Dieu. Mais ici, Paul dit les choses un peu différemment, il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas bon ». Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, tout ne sert pas à quelque chose. Tout ne sert pas à grand-chose. Tout est permis, et alors que les Bibles habituelles disent « tout n'édifie pas », la Bible du semeur dit « tout n'aide pas à grandir dans la foi ». Et nous sommes là au cœur de la chose. Nous avons ici, en effet, une réalité qui est bien présente dans le Nouveau Testament. Les premiers chrétiens, après le jour de la Pentecôte, ont pris très vite conscience du fait qu'ils appartenaient à un corps organisé qui s'appelait et qui s'appelle l'Église. Et ce sentiment allait bien au-delà du simple fait qu'ils se réunissaient tous les jours, sans doute, pour louer le Seigneur et écouter sa parole que les apôtres prêchaient. Nous lisons en effet dans Actes 2, versets 44 et 45, il est dit « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. » Un peu plus loin, il est dit « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. » La première église fonctionnait donc dans une prise de conscience permanente de sa valeur collective. Certes, le salut est une expérience individuelle, mais une fois sauvés, nous entrons à faire partie, nous commençons à faire partie d'une collectivité qui est l'Église. Au cœur du problème de l'Église aujourd'hui, il y a, je dirais, l'individualisme très particulier de notre époque. On a tendance, c'est naturel, à penser à soi, à ses propres problèmes, à ses rêves, à ses ambitions futures. Cela existait déjà à l'époque de Jésus et des apôtres. À un certain moment, nous lisons par exemple dans l'évangile de Marc que les deux frères, Jean et Jacques, qui étaient des apôtres de Jésus, se sont approchés de Jésus et lui ont dit « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et ils ont dit « Donne-nous, s'il te plaît. » Non, c'est moi qui rajoute « s'il te plaît ».« Donne-nous d'être ainsi l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Donc quand Jésus serait dans l'éternité avec tous ses apôtres, avec tous ses enfants, avec tous les chrétiens de tous les âges, tous les croyants de tous les âges, Jacques et Jean ne demandaient rien de moins que d'être assis, Jésus sur son trône, et d'être assis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Excusez du peu. Nous lisons plus loin que les autres 10 apôtres, quand ils ont entendu cela, ont commencé à s'indigner contre Jacques et Jean. D'ailleurs, Jean, plus tard, a dû le comprendre parce que, dans sa troisième lettre, il nous parle d'un certain Diotrèphe dont il dit qu'il aimait à être toujours le premier dans l'Église, c'est-à-dire à la première place, un de ces gens qui préfèrent être important plutôt qu'utile. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être un homme ou une femme utile ? Premièrement, je crois que d'après les deux textes que nous venons de lire, être un homme ou une femme utile dans l'Église, c'est contribuer à l'édification de l'Église. Nous avons lu tout à l'heure ce texte. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne contribue pas à l'édification de l'Église. Être utile, donc, c'est contribuer à l'édification, à la construction de l'Église. Le mot édification est un mot qui revient assez souvent dans les lettres de Paul, et en particulier dans l'épître, dans la première lettre aux Éphésiens. Par exemple, j'ai là sous les yeux un texte de 1 Corinthiens 14, 26. Paul parle de ce que doivent faire les chrétiens quand ils se rassemblent dans l'Église. Et il dit « Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. » Le but, dit Paul, du rassemblement de l'Église, c'est de s'édifier les uns les autres. C'est de rendre l'Église plus solide, plus forte, plus utile aux autres. Paul pose ici le cadre du culte. Chacun peut ou doit venir au culte dans l'intention d'apporter quelque chose. Trop souvent, nous rencontrons dans les églises, et je ne parle pas d'ici, je parle de toutes les églises où il m'arrive d'aller et où j'ai eu l'occasion de travailler pendant des années, trop souvent nous rencontrons des gens qui viennent au culte pour recevoir quelque chose. Mais le but du culte, c'est de glorifier Dieu et de contribuer à l'édification de l'Église locale. Le culte n'est pas un spectacle. Nous venons, comme dit Actes 13, 2, quand nous venons au culte, nous venons pour célébrer le culte du Seigneur. Nous venons pour servir Dieu, nous venons pour adorer, pour honorer Dieu. Et dans le cadre de ce culte à la gloire de Dieu, nous apportons à Dieu, nous apportons ce que Dieu nous a donné pour édifier son Église. Alors cela peut sembler plus facile à faire dans les petites églises, parce que quand on n'est pas trop nombreux, on arrive à se connaître et on peut peut-être apporter plus facilement quelque chose aux autres. Dans les grandes, la plupart des membres sont plutôt inactifs. J'ai remarqué que dans toutes les églises où j'ai travaillé ou auxquelles j'ai rendu visite, il y a en général un noyau de 30 personnes environ, qui font à peu près tout dans l'église. Le ménage, s'occupe de la musique, il s'occupe de la sonorisation, il s'occupe de l'école du dimanche, etc. Et il y a généralement, même dans les plus grandes églises, il y a 30, 40, 50 maximum personnes qui sont très engagées. Mais d'une certaine manière, peu importe si nous servons le Seigneur dans une grande ou dans une petite église, on voit souvent aujourd'hui, en France notamment, les chrétiens choisir leur église. Puis au bout d'un certain temps, ils changent d'église parce qu'ils en ont soi-disant trouvé une meilleure. Alors ne me demandez pas ce qui fait qu'une église est meilleure qu'une autre. C'est leur sentiment à eux. Ou bien ils trouvent que le pasteur est plus sympathique, il prêche mieux, il est meilleur. Ou bien l'ambiance est plus forte, la musique est d'une qualité supérieure, etc. Alors ils changent à nouveau d'église. Mais je crois que tout cela, même si cela a son importance, je crois que tout cela, aux yeux de Dieu, est secondaire. En fait, ce n'est pas cela l'important. L'important, ce n'est pas de trouver son plaisir, par exemple, dans la musique, dans le chant qui se pratique dans une certaine église. L'important, ce n'est pas non plus d'être bien là où on est. Certes, il est souhaitable que l'on se trouve bien dans l'église où on est. Mais l'important, c'est plutôt d'être là où nous pouvons être le plus utile. D'être là où Dieu nous veut. Et j'ajouterais même, l'important, c'est d'être là où l'on peut mettre plus en valeur tout ce que Dieu nous a donné pour le bien des autres. Notre obsession, si tant est que nous devions avoir une obsession, doit être d'édifier l'Église. Elle doit être de faire en sorte que l'Église soit plus belle, plus spirituelle, plus glorieuse, comme dit la Bible, sans tache ni ride avant le retour du Seigneur. Chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous demander « Que pourrais-je apporter aujourd'hui ?» Notre prière doit être « Seigneur, sers-toi de moi pour ta gloire, pour le bien, l'édification des autres. » C'est le sens d'ailleurs de cet autre verset de Paul qui dit dans Éphésiens 4, 29 « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui serve à l'édification nécessaire et communique une grâce à ceux qui l'entendent. » Le rêve, ce serait que tous les chrétiens, quand ils viennent à l'Église, soient animés du désir d'apporter une forme ou une autre d'édification chaque fois qu'ils viennent à l'Église. Pas nécessairement par le biais d'un témoignage particulier, mais déjà dans leur conversation, avant ou après le culte, par leur rencontre avec d'autres chrétiens, comme cela peut se faire aussi pendant la semaine, au contact par téléphone ou dans les visites que l'on fait. Voilà, ce me semble-t-il, la première qualité de quelqu'un qui se rendra utile. C'est quelqu'un qui cherche à contribuer à l'édification de l'Église. Dans la Bible, il y a une autre idée qui vient. Être utile, c'est être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Vous savez que c'est une expression que l'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 13, verset 22, quand l'apôtre Paul parle du roi David, et il parle de l'appel du roi David à servir le Seigneur, du jour où le prophète Samuel est allé chez les parents de David pour le choisir et l'oindre d'huile pour signifier qu'il serait le prochain roi. Et Paul, parlant de cet épisode, dit « Dieu a dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Qu'est-ce qu'un homme selon le cœur de Dieu ? Eh bien, c'est d'abord un homme qui a rencontré Dieu, qui sait donc qui il est. Il le connaît, il connaît sa nature, sa manière de penser, ses sentiments, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Pour nous, cela peut se faire par la lecture, la méditation de la parole de Dieu, la Bible, entre autres, et surtout. Il s'agit d'hommes ou de femmes comme Dieu les aime, d'hommes et de femmes qui cherchent avant tout à lui plaire. Un homme selon le cœur de Dieu, ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est un homme ou une femme qui est humble. J'ai l'impression que l'humilité a tendance à devenir une notion assez rare de nos jours. On ne recherche pas trop, on n'admire pas trop les gens qui sont humbles. Nous vivons une époque dans une société où Winston Churchill a de plus en plus raison. Les gens ne cherchent pas à être utiles, ils cherchent à se mettre en valeur. Les réseaux sociaux les aident beaucoup en cela. On aime se mettre en scène. On aime, excusez-moi l'expression actuelle, on aime changer sa photo de profil. Bon, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Mais c'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui. On aime se montrer, on aime se prendre en photo, etc. Alors, tous ceux qui font cela, bien sûr, ne font rien de mal. Mais notre société actuelle, et pas seulement dans ce domaine, mais dans tous les domaines, cherche à mettre en valeur les gens. On admire ceux qui ont des compétences, ceux qui ont des qualités. On admire les grands sportifs, ceux qui sont doués pour leur sport, etc. Certains prédicateurs se mettent aussi en scène, j'ai remarqué, toujours sur les réseaux sociaux, en disant, il y en avait un jour qui a mis sur Facebook, « Ça y est, mon fameux cours sur tel sujet biblique est sorti, c'est un cours super, vous pouvez vous inscrire pour l'acheter en ligne. » Bon, très bien, c'est lui qui le disait, hein, donc il savait bien si le cours était bien ou pas. Ou un autre disait, « Je prépare un message extraordinaire, formidable pour dimanche, venez tous nous rejoindre pour l'écouter. » Bon, Ça encore, si c'est pas de la mise en valeur personnelle, je ne sais pas ce que c'est. Mais la Bible ne va pas dans ce sens. Dieu met l'humilité en avant. David était un homme selon le cœur de Dieu parce que David était un homme humble. Le seul fait qu'il ait accepté ou se soit porté volontaire pour affronter Goliath prouve son humilité. Certains diront « Non, non, il a cherché à jouer au héros. » Mais je pense que c'est plutôt le contraire. David savait qu'il n'avait aucune chance, par ses propres moyens, de vaincre Goliath. On estime généralement que quand David a affronté Goliath, ce n'était qu'un jeune adolescent, qui avait peut-être une quinzaine d'années grand maximum. Il ne devait pas être de très haute taille, et le géant qui était en face de lui mesurait peut-être presque deux fois plus en hauteur que lui. Il était beaucoup plus puissant. En plus, David, lorsqu'il a voulu revêtir l'armure, que le roi Saül a voulu lui proposer, lui prêter pour l'occasion, David ne supportait pas le poids de cette armure. Elle ne lui allait pas, elle ne lui convenait pas. Et je crois que c'est bien le contraire. Le roi Saül avait refusé d'affronter Goliath. Alors que la Bible dit que le roi Saül faisait une tête de plus que tous les autres. Donc c'était peut-être l'homme qui aurait été le plus apte à lutter contre le géant, puisque c'était le plus grand de son peuple. Mais Saül n'a pas voulu affronter Goliath, tout simplement parce qu'il ne voulait pas être humilié, parce qu'il avait un certain orgueil en tant que roi. Il ne voulait pas être humilié, alors plutôt que d'être humilié, il préférait que tout le peuple soit humilié avec lui par les insultes du géant. David a prouvé son humilité parce qu'il a pris pour combattre le géant quelques petites pierres, et il a dit, puisque Dieu m'a aidé quand je gardais mes troupeaux à terrasser l'ours et le lion qui voulaient attaquer mon troupeau, ce même Dieu-là va m'aider et il terrassera le géant parce que je vais mettre toute ma foi en lui. Cela, c'est de l'humilité. Je mets mes capacités de côté, je sais qu'elles ne peuvent pas m'aider, je vais me confier entièrement à celui qui est bien plus grand que moi et qui est tout puissant, et c'est pour cela que David a vaincu le géant. Il a fait preuve d'une très grande humilité, ce qui n'était pas le cas du roi Saül. Troisième chose, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme ou une femme qui a confiance totalement en Dieu. C'est ce que David a prouvé. David a prouvé qu'il avait totalement confiance en Dieu. Dans les psaumes, par exemple, nous voyons que David était un homme qui avait une véritable communion avec Dieu et qui cherchait vraiment à lui plaire. Chaque fois, nous le voyons dans le récit du règne de David, notamment dans le deuxième livre de Samuel, chaque fois que David voulait prendre des décisions importantes, ou chaque fois qu'il devait prendre des décisions importantes, la Bible dit « David consultait Dieu ». David cherchait à savoir quelle était la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il savait que si Dieu lui disait « Tu peux aller au combat », il savait que Dieu lui donnerait la victoire. Quelle que soit l'importance de l'ennemi, il savait qu'il pouvait avoir totalement confiance en Dieu. Et en cela, nous pouvons donner comme quatrième point le fait qu'un homme, selon le cœur de Dieu, ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est un homme ou une femme qui est prêt à faire non pas sa volonté, mais celle de Dieu. On ne peut se rendre utile à l'Église, qui est le corps de Christ, que si l'on veut faire la volonté de Dieu. Chaque fois qu'un être humain a voulu imposer à une Église sa volonté, ça a été une catastrophe, ça a été un échec et souvent ça a été une division. L'important pour faire la volonté de Dieu, c'est de chercher à plaire à Dieu, donc étudier dans sa parole afin de comprendre pourquoi il parle ou agit de telle ou telle manière, pourquoi certaines choses lui plaisent et d'autres ne lui plaisent pas. Notre foi doit toujours être enracinée dans sa parole. Nous devons toujours chercher à le comprendre davantage pour pouvoir mieux le servir. Enfin, dernier point. Être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est être quelqu'un qui encourage les autres. Je vais terminer par l'exemple d'un homme que nous découvrons dans les Actes des Apôtres qui s'appelait Barnabas. Barnabas était un surnom que les apôtres lui avaient donné. Et ce nom, ce surnom, voulait dire celui qui encourage, celui qui exhorte. Ce mot est très intéressant parce qu'il est de la même famille que le mot consolateur qui est employé dans la Bible, dans l'évangile de Jean, pour décrire, pour désigner le Saint-Esprit. En quelque sorte, celui qui encourage, celui qui console, celui qui aide, celui qui exhorte, fait l'œuvre du Saint-Esprit. Comment Barnabas a-t-il été un homme qui a encouragé les autres ? De différentes manières, et notamment en ayant les yeux ouverts sur les besoins des autres. Barnabas vivait dans la première église, dans les Actes des Apôtres, l'église qui est née le jour de la Pentecôte, et il est dit qu'à un certain moment, il y avait des personnes qui avaient des besoins, des personnes qui n'étaient pas riches, qui étaient pauvres, qui étaient indigentes dans l'église. Et un jour, Barnabas a vu cela, et qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? La Bible dit qu'il possédait un terrain, alors il a vendu son terrain, et l'argent de la vente, que lui a rapporté la vente, il l'a offerte à l'Église pour qu'elle pourvoie aux besoins des plus pauvres. Cela, c'est une forme d'encouragement. Mais il existe encore d'autres formes d'encouragement. À un certain moment, Barnabas a vu que l'apôtre Paul, juste après sa conversion, l'apôtre Paul avait du mal à se faire accepter par les autres. D'ailleurs, on lit dans le livre des Actes ce texte, quand Paul, après sa conversion sur le chemin de Damas, est revenu à Jérusalem, il a essayé de se joindre aux disciples, mais le texte dit « tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fut vraiment devenu un disciple. » Il se rappelait de lui comme le plus grand persécuteur de l'Église. Alors il nous est dit que Barnabas l'a pris avec lui, qu'il l'a conduit auprès des apôtres et qu'il leur a raconté comment, sur la route de Damas, Saul de Tarse avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait commencé aussitôt à prêcher l'Évangile au nom de Jésus. Et la Bible dit, alors, Paul put se joindre à eux et aller et venir à Jérusalem avec eux et parler ouvertement au nom du Seigneur. Nous voyons ici que Barnabas a encore fait office d'homme qui encourage, d'homme qui resserre les liens, d'homme qui exhorte les uns les autres à accepter ce que Dieu fait. Enfin, dernier détail, nous retrouvons Barnabas plus tard à Antioche, où des hommes avaient osé prêcher l'Évangile à ceux qui n'étaient pas juifs d'origine. À l'époque, on ne prêchait l'Évangile qu'à ceux qui étaient juifs d'origine. Et l'Église de Jérusalem s'est affolée quelque temps après, parce qu'ils se sont dit, si on commence à prêcher l'Évangile à tout le monde, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourtant, Jésus l'avait annoncé pendant qu'il était sur terre, que l'Évangile serait prêché à toutes les nations, plutôt que ses disciples devaient prêcher l'Évangile à toutes les nations, c'est-à-dire à tous les peuples. Alors il nous est dit que l'Église de Jérusalem a envoyé Barnabas à Antioche pour voir ce qui s'y passait. Et Barnabas est allé à Antioche, il n'a pas jugé les chrétiens d'Antioche, il n'a pas jugé ceux qui avaient prêché l'Évangile aux non-juifs, il n'a pas jugé ceux qui s'étaient convertis, qui n'étaient pas juifs d'origine. Il nous est dit qu'il a constaté ce que la grâce de Dieu avait accompli. Il en fut rempli de joie et il encouragea tous les chrétiens à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Si l'on veut être utile à l'Église, on ne doit pas seulement chercher à édifier l'Église, on ne doit pas seulement chercher à être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qui veut plaire à Dieu, on doit aussi chercher à encourager les autres. L'Église, quelle qu'elle soit, quel que soit l'endroit où elle se trouve, quelle que soit sa dénomination, aura toujours besoin d'être encouragée. Les chrétiens n'ont pas tous autant besoin d'être encouragés. Mais il y a dans toutes les églises du monde des hommes et des femmes qui ont besoin d'être encouragés. Ce ne sont pas forcément toujours les mêmes. Il y en a qui ont besoin d'être souvent encouragés. D'autres qui ont besoin à des moments précis de leur vie d'être encouragés. Et si ce jour-là, ils trouvent sur leur route un homme, une femme qui va leur apporter ces paroles d'encouragement, ils pourront repartir de plus belle. Alors, je dirais en conclusion, soyons des hommes et des femmes utiles au Seigneur et à son Église, c'est-à-dire des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui cherchent toujours à édifier l'Église, à plaire au Seigneur pour s'attacher à faire ce qu'il aime et à encourager les chrétiens par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.